Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Academy. Nous poursuivons donc notre série « Quoi de neuf sur Napoléon » en compagnie de l'historien Aurélien Lignereux, professeur à Sciences Po Grenoble. Bonjour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Vous vous intéressez à l'autre armée de Napoléon, celle des fonctionnaires. Vous leur avez consacré deux livres, « Servir Napoléon » sur les policiers et les gendarmes dans les départements annexés, et plus récemment, « Les impériaux » aux éditions Fayard, qui traite plutôt des administrateurs au sein d'un empire à l'échelle de l'Europe. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce sujet?
Eh bien, le bicentenaire a été l'occasion, hein, comme une autre, hein, de rappeler la double dimension de bâtisseur de Napoléon. Napoléon comme bâtisseur de la France contemporaine à travers, hein, toutes les institutions qu'il a fondées ou refondées, et puis Napoléon comme bâtisseur d'un empire de dimension européenne, mais plus éphémère. L'idée était d'un petit peu de décentrer le regard, de dépasser le point de vue institutionnel et de se pencher vers ceux qui, au quotidien, faisaient vivre ces administrations. On vivait d'ailleurs. Pour essayer de comprendre un petit peu comment, sous Napoléon, on a essayé de construire de façon simultanée, de façon un peu contradictoire, un État-nation et un État-empire. Et on saisit bien ces contradictions au quotidien, les tiraillements à travers, hein, la vie, la carrière des administrateurs, hein, que ce soit des préfets, des douaniers, des gendarmes, à condition de dépasser leur seul caractère d'administrateur pour les envisager sur toute leur couture, c'est-à-dire, hein, comme des hommes mariés, des pères de famille ou des célibataires dans leur réseau professionnel.
Et alors justement, qui sont-ils ces hommes-là? Nous sommes après la Révolution. Est-ce qu'il y a plus de place pour la méritocratie dans le recrutement?
Eh bien, en fait, c'est un équilibre un petit peu savant et empirique entre d'abord plusieurs générations. Il y a la génération des vainqueurs de la Révolution. Hein, il y a un mouvement de requalification des anciens révolutionnaires qui passent de tâches politiques à des tâches administratives ou judiciaires. Et puis, au fil des années, la politique de ralliement portant ses fruits et les places offertes au sein de l'Empire, hein, sans un aliment pour nourrir ce ralliement, ils sont rejoints par des couches de l'ancienne noblesse. Et puis, il y a une génération montante, la génération des gens comme Stendhal, de jeunes trentenaires ambitieux, qui se font une place. Donc voilà, il y a déjà ces générations qui se croisent. La dimension de méritocratie en a un âge un petit peu tournant, puisque Napoléon reprend les institutions méritocratiques héritées dans l'Ancien Régime, comme les mines, les ponts et chaussées. Cette dimension-là, elle est poursuivie, mais il reprend aussi toute la politique clientéliste au sein des ministères, des liens d'homme à homme, qui assurent en fait des réseaux de fidélité. Oui, ces administrateurs, on les connaissait surtout par leur mémoire. Là, l'un des grands apports de l'étude, en fait, c'est de travailler à partir de des sources privées, hein, des correspondances qui permettent donc de les dévoiler, hein, sous tous les angles, et puis d'aboutir à une prosopographie d'ensemble, c'est-à-dire, voilà, j'ai réuni les carrières, les trajectoires de 1500 individus qui sont réunis en fait par l'expérience du dépaysement, hein, ce qui caractérise le point commun entre un préfet et un préposé des douanes, bah, c'est cette expérience du dépaysement, de l'expatriation, et qu'on peut aborder de manière à la fois quantitative par la base de données et qualitative grâce aux échos dans les lettres particulières.
Justement, vous insistez beaucoup sur cette expérience de l'expatriation qui frappe ces hommes. Comment cela va-t-il les transformer? Comment vivent-ils ce déracinement d'une certaine façon?
Eh bien, franchir les anciennes frontières de la France, hein, c'est à la fois une aubaine, puisque la multiplication des postes, hein, favorise, hein, l'avancement. Hein, généralement, on change de département pour monter un échelon. Donc, il y a une course des carrières, un véritable cursus honorum, hein, qui est dopé. On a besoin de cadres, hein, pour implanter les institutions françaises. Donc, il y a des belles opportunités. Ceci dit, ça a des coûts qui sont en partie pris en charge par l'administration. Et puis surtout, c'est une expérience qu'il faut vivre en famille, imposer à sa femme, penser à l'éducation des enfants. L'éloignement de Paris signifie aussi l'éloignement temporaire par rapport au circuit de pouvoir, de recommandations, certains risques, dans des départements les plus récemment annexés où la sociabilité sur le plan local est assez difficile à établir avec les populations. Donc voilà, il y a une série de contraintes et d'atouts, et ces impériaux essayent de jongler avec ses avantages et ses inconvénients.
Que deviennent-ils après la chute de l'Empire ? Est-ce qu'ils parviennent à s'intégrer dans cette grande continuité administrative qui perdure malgré les régimes ?
Alors, la pyramide des âges livre une première clé, puisque une partie de ces cadres étaient déjà vieillissants à la fin de l'Empire. Donc pour eux, le moment est venu de se retirer. Certaines institutions, comme les ponts et chaussées, vont éliminer en son sein les plus âgés, pour permettre aux plus jeunes de trouver un poste équivalent dans une France qui passe tout de même de 130 départements à 90 environ. Donc voilà, il y a des sacrifices. La dimension d'épuration politique, elle est finalement assez faible, parce qu'il y a beaucoup de postes techniques, pour les douanes, les mines, etc. Et puis ces administrateurs qui sont partis hors des frontières peuvent alléguer qu'ils ont servi la France finalement plus qu'un gouvernement. Ça fonctionne assez, et il faut bien avoir à l'esprit l'âge relativement jeune, l'âge médian est assez jeune de ces administrateurs qui ont encore 20, voire 30 années de service sous les monarchies censitaires. Alors, ils reviennent en France avec un capital impérial, c'est-à-dire que durant leur expatriation, ils sont devenus des professionnels de l'administration qu'ils connaissent à la fois dans ces grandes lignes et en même temps dans les petits détails, parce que c'est eux qui ont monté de toutes pièces la machine administrative française. Donc voilà, ils ont fait une espèce de formation continue, puisqu'à chaque fois des problèmes se posaient. Comment expliquer au maire d'une commune italienne comment fonctionnent les matrices fiscales, etc. Ils ont un regard d'expert. Ils vont valoriser ce capital impérial pour une partie d'entre eux en faisant, des années plus tard, en faisant paraître des études statistiques sur leur ancienne circonscription administrative, en livrant bien sûr des mémoires ou des récits de voyage. Et tout cela transmet une forme de mémoire impériale qui a une bien plus longue durée que la domination politique, le souvenir de la domination militaire napoléonienne.
Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons gardé de cette administration-là ? Est-ce qu'il y a des traits communs chez les fonctionnaires notamment ?
Alors en fait, il y a deux types d'héritage. Il y a un premier héritage qui se pose, et là c'est une question en fait qu'il faut creuser, c'est sur la continuité impériale entre le Premier Empire et les empires coloniaux ultérieurs de la France. Il y a un certain nombre d'habitudes, et même d'habitus au niveau des administrateurs qui sont sensibles dès Napoléon et que l'on retrouvera dans la plus grande France de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Et sans pour autant verser dans les questions d'impérialisme culturel, mais il y a un rapport à la périphérie, il y a des choses de longue durée. Et puis, il y a surtout des comportements qui rappellent, qui annoncent, qui préfigurent en fait les expatriés, les expats, qui sont déjà présents sous Napoléon, à savoir un petit peu cette transaction entre le sacrifice momentané de quelques années au service d'une carrière qui va être boostée en quelque sorte, et avec à la clé des avantages matériels, puisque ce n'est pas le même mode de vie. Un fonctionnaire français à Rome va vivre, a des chances de vivre dans un palais. Le coût de la domesticité est beaucoup plus faible, et donc il va vivre sur un plus grand pied qu'en France. Bon, alors il faudra ensuite qu'il s'accommode de la nourriture italienne, etc. Mais il peut faire venir un cuisinier français. Donc il y a un petit peu ces calculs de carrière, intérêts privés, familial et professionnel.
Eh bien, un grand merci Aurélien Lignereux de nous avoir expliquer cette administration de Napoléon qui se jouait à l'échelle de l'Europe. Je rappelle le titre de votre livre, ce sont donc Les Impériaux aux éditions Fayard Histoire. À bientôt.
Merci à vous.